Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le journal de 13h au sommaire aujourd'hui. Après l'ouverture des commerces, va-t-on autoriser les enterrements le dimanche? C'est un projet de la mairie de Paris. La CGT appelle les personnels des cimetières parisiens à la grève. Nous en parlons tout à l'heure. Les deux boîtes noires du Boeing Ethiopian Airlines retrouvées en Éthiopie, faut-il clouer au sol les avions du même modèle? La Chine et l'Indonésie répondent oui. Le principe de précaution doit-il s'appliquer? L'invité de ce journal est l'économiste spécialiste d'aéronautique Loïc Tribolaspierre. Comment concilier économie et écologie? Nouvelle semaine importante pour le gouvernement. L'avenir du diesel examiné à Bercy ce matin. La présentation du projet de loi énergie reportée pour le rendre plus vert, assure le gouvernement. Au Japon, ce lundi marque les 8 ans de la catastrophe de Fukushima. Dans cette édition encore, un témoignage rare, celui d'un homme qui a connu la schizophrénie. Stéphane est aujourd'hui rétabli, on ne dit pas guéri.
J'entendais des voix, comme la radio est éteinte, la télévision est éteinte, on a l'impression qu'on parle avec Dieu. On peut rire de certains symptômes après, hein, quand tout ça est terminé, mais c'est beaucoup d'angoisse. Et puis, les personnes les plus touchées, c'est la famille, c'est les proches.
Et nous entendrons plus longuement tout à l'heure ce père de 3 enfants qui témoigne pour changer l'image que l'on a de cette maladie. Non, les schizophrènes ne sont pas des tueurs en puissance. Comment lutter contre la haine sur Internet? La députée En Marche, Laetitia Avia, veut un bouton unique sur les plateformes et réseaux pour signaler les propos hors la loi. Comment cela peut marcher? Explication Xavier Demagny. Nous irons au tribunal de Paris, jour de procès pour Bernard Tapie. Et puis lendemain de défaite, une de plus pour l'équipe de France de rugby, battue par l'Irlande. Les Bleus préparent leur dernier match destination en Italie le week-end prochain. Bonjour Vincent Pellegrini.
Bonjour Bruno.
Vincent, direct de Dublin, où vous êtes encore, car particularité, les Bleus restent en Irlande toute la semaine.
Oui, il était prévu depuis longtemps que ce 15 de France en souffrance reste ici à Dublin avant de rejoindre l'Italie. Mais vu le contexte pesant qui entoure les Bleus, on va dire que cette mise au vert tombe plutôt bien.
Vous nous détaillerez tout cela tout à l'heure, Vincent. La météo, bonjour Jean-Pierre Hameau.
Bonjour Bruno.
On a le choix, aujourd'hui c'est ou soleil ou giboulée.
Oui, c'est ça. Prévoyez d'abord un régime de giboulée dans un grand quart nord-est, avec de fréquentes averses localement orageuses et des averses de neige sur tous les massifs de l'est à partir de 300 mètres d'altitude. Attention aux rafales de vent violentes se produisant sur les cimes alpines. Partout ailleurs, le temps sera plus calme, avec de belles périodes ensoleillées. Le vent restera soutenu dans la plupart des régions. On attend jusqu'à 100 km/h dans le sud, voire 110 km par heure près des Caps Corses. Et puis les maximales seront conformes aux moyennes de saison dans la moitié nord. Elles resteront très douces dans le sud-ouest et le sud.
Voilà pour la météo en France. Tout à l'heure également, la météo sur Mars, car au fil des missions, on la connaît de plus en plus précisément. La NASA édite désormais un bulletin quotidien. Sachez qu'en ce moment, les températures sont de moins 95 la nuit et qu'il y a du vent. Rafale jusqu'à 170 km/h, ça fait sourire Jean-Pierre Hameau. Le 13h sur Terre, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter.
Qu'est-ce qui a provoqué hier le crash du Boeing 737 d'Ethiopian Airlines? Information importante, les deux boîtes noires de l'appareil ont été retrouvées ce matin. Le crash s'est produit peu après le décollage d'Addis Abeba, 157 morts dont 9 Français et beaucoup d'employés de l'ONU. L'avion allait à Nairobi, Kenya, où s'est ouvert ce matin une conférence de l'ONU sous le signe du deuil, car beaucoup de victimes devaient participer à cette conférence. Sébastien Nemeth.
Ask for a silence, please. Avant l'ouverture des débats, les participants de l'Assemblée générale se sont levés, certains en pleurs, pour rendre hommage à leurs collègues emportés par le drame. Alors que la catastrophe est survenue dans son pays, Fekadou Beyene, commissaire éthiopien à l'environnement, a salué la mémoire des disparus.
J'étais à l'aéroport d'Addis Abeba, en route pour Nairobi, quand j'ai appris cet accident tragique. L'avion transportait des participants à notre assemblée. Au nom du groupe africain et de mon gouvernement, j'exprime mes condoléances les plus sincères aux victimes et à leurs proches. Que leurs âmes reposent dans la paix éternelle.
Chaque orateur a présenté ses condoléances aux employés du PNUE, du HCR, de la FAO ou encore du PAM qui ont été tués. Ion Chimpeanu, secrétaire d'État au ministère roumain de l'Environnement, s'est exprimé au nom de l'Union européenne.
Nous sommes attristés par les circonstances tragiques qui touchent cette réunion. Beaucoup étaient en route pour ce sommet, avec la volonté de répondre à notre appel en faveur d'une action urgente face aux défis actuels de notre environnement. Leur absence rend notre responsabilité encore plus grande pour faire de cette réunion un succès.
Dans les allées de l'immense complexe onusien situé au nord de Nairobi, les drapeaux des pays membres qui flottent d'habitude dans l'allée ont été retirés. Seul restait la bannière bleue de l'ONU, hissée à Mima. Sébastien Nemeth, Nairobi, RFI pour France Inter.
Invité de ce journal, le spécialiste d'aéronautique et délégué général du Centre d'études et de prospectives stratégiques, Loïc Tribolaspierre. Bonjour monsieur.
Bonjour.
L'avion en cause, c'est précisément un Boeing 737 MAX 8. En octobre dernier, c'était le même modèle d'appareil qui avait également subi un crash en Indonésie. D'ailleurs, l'Indonésie et la Chine ont décidé ce matin de ne plus autoriser les vols de cet appareil jusqu'à nouvel ordre. Loïc Tribolaspierre, est-ce qu'ils ont raison ces deux pays? Est-ce que tous les Boeing 737 MAX 8 doivent rester cloués au sol pour l'instant?
Écoutez, tout d'abord, constatons que c'est un produit nouvelle génération de Boeing. Donc, c'est pas un produit ancien, c'est un produit nouvelle génération. Premier point. Deuxième point, on s'aperçoit que livré il y a peu de temps, deux incidents majeurs causant un crash se posent, comment dire, à la gouvernance des compagnies aériennes. Est-ce qu'elles sont responsables? La réponse, c'est oui. Deux compagnies viennent de décider, les compagnies chinoises et les compagnies indonésiennes. C'est le principe de précaution. Il est à souligner, face à cette concordance des faits, rupture technologique, deux incidents graves, le principe de précaution s'impose et il ne serait pas rare de voir en cascade un certain nombre de compagnies responsables disposant de ce type d'avion, notamment la même démarche, et de clouer au sol cet appareil.
De votre point de vue, ce serait logique et même normal, hein ?
Ce serait normal et logique. Produit de nouvelle génération, on avait déjà, lors des essais, des premiers essais, souligné le fait que ces procédures, notamment de système anti-décrochage, pouvaient poser un problème, donc c'est le système électronique. C'est concrétisé par deux crashs majeurs. La précaution s'impose. Ou alors, très légitimement, s'il y avait un autre incident, ce qui serait gravissime, très légitimement, on pourrait souligner l'inconséquence de la compagnie aérienne. Je dis bien l'inconséquence.
Et à propos de Boeing, est-ce qu'ils ont été légers après le crash d'octobre dernier au large de l'Indonésie?
Non, il est trop tôt de souligner ceci. Des investigations, je dirais, ont été menées. Reste à savoir et déterminer les causes. Il semblerait que les causes soient similaires. Si veut dire, si les causes sont similaires, le principe de précaution s'impose. S'il y aura des conséquences notoires pour la compagnie Boeing, cela va de soi.
Lesquelles?
Lesquelles, c'est que tout simplement, très légitimement, les compagnies aériennes seraient en droit de dire « nous clouons ces appareils au sol ». C'est donc un manque à gagner pour nous. Nous pourrions nous retourner vis-à-vis du constructeur du fait effectivement de cette non-rentabilité que nous aurons. Ceci est extrêmement important.
Loïc Tribolaspierre, la liaison n'est pas bonne. Juste une dernière question. On a retrouvé ce matin les deux boîtes noires. C'est la garantie de savoir précisément ce qui s'est passé?
Alors, on s'oriente vers le fait, c'est que tout simplement le système d'anti-décrochage aurait mal interprété, je dirais, des signaux inhabituels et aurait conduit au même effet que ce qui s'était passé en Andalousie.
Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions malgré cette liaison un petit peu difficile de vous entendre, Loïc Tribolaspierre. Évidemment, on suit ce dossier dans les journaux de la soirée sur France Inter. Ce fut un tournant dans le regard que nous tous, pas seulement les Japonais, posons sur l'énergie nucléaire. Il y a 8 ans, jour pour jour, séisme, raz-de-marée, accident nucléaire à Fukushima, au centre de l'île principale du Japon. On estime que sur le moment ou par la suite, plus de 20 000 personnes sont mortes. 8 ans plus tard, cette catastrophe est une plaie ouverte au Japon à beaucoup d'égards. La centrale est toujours en chantier. La confiance des Japonais à l'égard de leurs dirigeants et même des scientifiques est durablement altérée. Et la dernière controverse en date ne va pas arranger les choses. À l'approche des JO de 2020, le gouvernement incite les habitants de cette région qui ne sont pas encore rentrés à le faire. Mais les ONG préviennent, il peut être dangereux de rentrer. Reportage au plus près de la centrale. Raphaël Briot.
Téléphone, portefeuille, on se défait de tout quand on arrive à Fukushima Daiichi. On enfile un simple masque chirurgical et autour des réacteurs, on découvre un chantier nettoyé, bétonné, coloré. Beaucoup reste à faire, rappelle Kenji Abe, employé de TEPCO.
Le démantèlement de la centrale devrait prendre 30 à 40 ans. C'est un très long processus.
Mais le dossier brûlant, ce sont ces tonnes de liquide contaminés chaque jour par les réacteurs qui ne sont plus étanches. L'eau est épurée de ces éléments radioactifs, à l'exception d'un seul, le tritium, impossible à filtrer avec les techniques actuelles, puis stockée, l'équivalent de 500 piscines olympiques dont TEPCO ne sait que faire. De l'avis des experts, la meilleure solution serait le rejet en mer, refus farouche des pêcheurs, comme en témoigne Toyohiko Hidata du centre de recherche marine d'Iwaki.
Depuis 2015, aucun poisson testé ne dépasse les normes fixées par le gouvernement. Nous sommes contre le rejet en mer, car les rumeurs néfastes reprendraient de plus belle et pénaliserait la préfecture de Fukushima.
La méfiance est d'autant plus forte qu'en septembre, TEPCO a reconnu son mensonge. L'eau ne contient pas seulement du tritium, mais de multiples éléments radioactifs. Il faudra donc la filtrer une seconde fois avant un rejet en mer qui semble inéluctable.
Et des cérémonies d'hommage aux victimes de la tragédie de Fukushima avaient lieu ce matin à travers le Japon à 6h46, précisément 6h46, heure de Paris. En France, 8 ans après cette catastrophe, c'est ce matin que devait être présenté en Conseil des ministres le projet de loi énergie. Quelle place pour le nucléaire, les énergies renouvelables dans notre mix énergétique? Présentation reportée. Pourquoi cela, Yael Goz?
C'est l'histoire d'un texte très technique qui revient tous les 5 ans en passe de devenir hyper politique. Car l'Élysée a parfaitement identifié le risque qu'il y aurait à décevoir sur le climat. Semaine cruciale. Jeudi, 4 ONG déposent un recours contre l'État pour manquement à ses engagements. Vendredi, grève scolaire mondiale. Samedi, nouvelle marche pour le climat. En fin de semaine dernière, Emmanuel Macron a donc demandé à François de Rugy de corriger sa copie. Pas pour revoir les ambitions à la baisse, mais justement pour les réviser à la hausse, expliquait ce matin la secrétaire d'État Brune Poirson sur France Info.
Non, le texte était prêt, mais on veut qu'il soit encore plus ambitieux. Le passage en Conseil des ministres est reporté. Mais ça ne veut pas dire que le passage à l'Assemblée l'est. Ça ne change pas.
Et qui sera donc examiné quand?
Ah, d'ici à l'été.
Et présentation en Conseil des ministres d'ici 1 à 3 semaines, avec une copie revue et complétée. Quelle neutralité carbone d'ici à 2050? Division sans doute par 6 et non plus par 4 de nos émissions de CO2. Et maintien d'un objectif de 20% d'économie d'énergie d'ici à 2030. Un report du texte qui s'explique aussi par le casse-tête technique et juridique de la fermeture des centrales à charbon, promesse présidentielle. Il y a 4 centrales en France qui approvisionnent en électricité près d'1 million de foyers. À l'Élysée, on veut s'assurer qu'il y aura bien une production alternative équivalente pour éviter les malentendus et les polémiques que François Hollande avait dû affronter sur un autre dossier, celui de Fessenheim.
Yael, vous nous parliez de cette grève mondiale pour le climat vendredi dans les lycées, organisée également par les étudiants. Eh bien, le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, annonce que des débats sur l'environnement seront organisés dans les lycées ce vendredi. Avec ce projet de loi, c'est la question de l'équilibre entre économie et écologie qui est posée. Elle est posée de la même manière à propos du diesel. Bonjour Maxime Debs.
Bonjour.
On vous en parlait ce matin sur France Inter. Les immatriculations de voitures diesel sont en chute libre en France. C'était plus des 2/3 des immatriculations en 2010. C'est 1/3 désormais seulement le diesel. Il y a des milliers d'emplois à la clé. C'était au cœur d'une réunion ce matin à Bercy. On voit ça avec vous dans un instant, Maxime. D'abord, la méfiance des écologistes et des associations environnementales avant même cette réunion. Elles redoutaient une sorte de greenwashing. Écoutez, Lorelei Limousin, elle est responsable des politiques de transport au réseau Action Climat.
On peut craindre que ce soit une tentative de reverdir l'image du diesel, parce qu'encore récemment, on a vu que le diesel était présenté, enfin les nouveaux diesels étaient présentés comme une option propre, alors qu'on sait que même les nouveaux véhicules émettent encore énormément de particules fines et d'oxyde d'azote qui sont très néfastes pour la santé. Et surtout, c'est une réunion donc entre acteurs industriels et le ministre de l'économie, donc sans les acteurs notamment environnementaux et de la santé, alors que c'est un sujet de santé publique et climatique très important. Là, on a l'impression que les discussions vont tourner sur l'appui, le soutien au secteur, sans avoir cet objectif impératif de sortir des énergies fossiles comme le diesel dans le secteur automobile.
Alors, Maxime Debs, cette réunion à Bercy avec des représentants des constructeurs, des sous-traitants, mais aussi des élus dans les régions où le diesel est important, qu'est-ce qui en ressort de cette réunion?
Mais c'était une réunion portant sur l'ensemble de la filière automobile où le diesel a pris beaucoup de place. Le Dieselgate est passé par là, hein, vous l'avez dit, c'est un marché en chute libre à Paris. Anne Hidalgo veut le bannir, le diesel du centre-ville, avec pour conséquence 35 000 emplois directement ou indirectement menacés par les baisses de commandes. L'inquiétude est grande à l'usine Bosch de Rodez, notamment, qui produit des injecteurs et des bougies de moteurs diesel. Ce matin étaient présents donc des élus locaux qui condamnent pour partie le diesel bashing permanent. Certains véhicules nouvelle génération sont pour eux moins polluants que les voitures essence et doivent pouvoir bénéficier de facilités de circulation les jours de pic de pollution notamment. Les vignettes critères 1 réservées aux moteurs essence doivent être étendues aux véhicules diesel récents, estiment les constructeurs. Sans se prononcée, Bercy annonce le lancement aujourd'hui d'études scientifiques pour tenter d'analyser le taux de CO2 réel des moteurs dernière génération. Le ministère qui veut aussi mieux répertorier les sites qui seraient menacés en France par une disparition du diesel pour mieux accompagner la transition. Une nouvelle réunion se tiendra dans 3 mois pour faire le point sur tout ça.
Et je vous parlais tout à l'heure du Conseil des ministres qui se tenait exceptionnellement ce matin et non pas mercredi. Cela parce que le président de la République est parti pour un voyage en Afrique, d'où la date avancée de ce Conseil des ministres.
France Inter, le journal de 13h. Bruno Duvy.
Chaque année un peu plus, le dimanche est un jour comme les autres. On peut désormais faire facilement ses courses le dimanche. Est-ce qu'on va bientôt pouvoir enterrer un proche le dimanche dans les cimetières parisiens? C'est impossible pour le moment, mais c'est un projet de la mairie de Paris que les personnels contestent. La CGT appelle à faire grève aujourd'hui et la semaine prochaine. La mairie défend de son côté ce qu'elle appelle une extension du service public. Rémi Brancato.
Organiser un enterrement le dimanche, c'est impossible à Paris comme ailleurs, mais la capitale veut faire figure de pionnière à la fin de l'année ou début 2020. Pour Pénélope Comites, l'adjointe aux affaires funéraires à la maire de Paris, ce sont les familles qui le demandent.
On a des familles dispersées sur le territoire français, certaines sont à l'étranger, certaines nous ont dit que c'est très compliqué de pouvoir réunir tout le monde le mardi, le mercredi ou le vendredi pour un moment de deuil familial. Ce serait pertinent de pouvoir le faire le dimanche et je crois que ça va effectivement dans le sens d'un renforcement du service public.
La ville prévoit donc d'embaucher 11 personnels administratifs de conservation, soit 25% d'effectifs en plus, et de les rémunérer entre 170 et 300 euros par dimanche travaillé. Mais pour la CGT, ce serait une banalisation inacceptable du travail du dimanche. C'est ce qu'estime Thierry Lanne, le secrétaire de la section cimetière, d'autant que selon lui, on ne sait pas si cela répond vraiment à un besoin.
Notre direction ainsi que la maire n'ont jamais fait de sondage. Comment ils peuvent nous dire qu'il y a un besoin réel? On ne peut pas obliger des agents à leur dire « voilà, vous allez travailler le dimanche, c'est bafouer ce droit ».
Et pour protester, les agents grévistes se rassemblent devant le cimetière du Père-Lachaise.
Les plus de 400 millions d'euros accordés à Bernard Tapie en 2008 pour solder son litige avec le Crédit Lyonnais étaient une fraude. Ça, la justice civile l'a déjà établi. Question maintenant, qui est responsable? C'est de cela que l'on va parler dans les minutes à venir au tribunal correctionnel de Paris. Ouverture imminente de ce procès pour escroquerie. 6 prévenus, dont l'avocat de Bernard Tapie, dont l'un des magistrats qui avait arbitré en sa faveur, et Tapie lui-même, évidemment. Bonjour Sarah Guibaudot.
Bonjour.
Vous êtes en direct du tribunal de Paris. Particularité, c'est un homme malade, Sarah, qui va être jugé.
Oui, un cordon de sécurité est en place devant la plus grande salle du palais de justice pour protéger l'arrivée de Bernard Tapie, qui veut être là pour le combat de sa vie. Il a annoncé qu'il arrêterait son traitement contre le cancer pour avoir les idées claires. Parmi les prévenus, l'ancien arbitre Pierre Estoupe, à lui 92 ans. Le tribunal correctionnel tiendra sans doute des audiences pas trop longues. Des salles de repos sont également prévues. Sur le fond, les débats vont nous ramener à deux périodes, 2007-2008. Nicolas Sarkozy est élu président et Bernard Tapie obtient ce qu'il n'a eu de cesse de demander aux gouvernements successifs, l'abandon de la justice ordinaire au profit d'un arbitrage qu'il est accusé d'avoir truqué. L'homme d'affaires, lui, refait sans cesse l'histoire de la vente d'Adidas en 1993. Il s'estime spolié par le Crédit Lyonnais. Faux, disent la brigade financière et les juges d'instruction, qui parlent même d'une thèse complotiste. L'enquêteur de la brigade financière fait partie des témoins cités, tout comme un ancien haut fonctionnaire de Bercy, hostile à l'arbitrage. En 2016, Bruno Bézard avait été tranchant devant la Cour de justice de la République. L'ancienne ministre Christine Lagarde avait été reconnue coupable de négligence et dispensée de peine. Également appelée à témoigner, elle devrait invoquer ses obligations au FMI pour s'en dispenser.
Sarah Guibaudot en direct du tribunal de Paris avec Marcos Darras. L'ouverture du procès est donc prévue, s'il n'y a pas de retard, à 13h30. À Bruxelles, la prison à vie a été requise ce matin contre Mehdi Nemmouche. Mehdi Nemmouche jugé pour 4 assassinats terroristes au musée juif de Bruxelles. C'était en 2014. Comment lutter contre la haine sur Internet, sur les réseaux sociaux en particulier? La députée En Marche, Laetitia Avia, dévoile son projet de loi aujourd'hui. Il prévoit que les propos manifestement hors la loi soient retirés sous 24 heures. Encore faut-il les signaler. Eh bien, c'est le deuxième point, un bouton unique de signalement. Bonjour Xavier Demani.
Bonjour.
Alors, on comprend bien le principe, Xavier, mais concrètement, cela peut marcher comment?
Eh bien, cela peut marcher avec un logo pour s'y retrouver, le même bouton avec le même logo, que l'on soit sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter ou bien YouTube. La députée Laetitia Avia veut aussi rendre plus simples les formulaires de signalement.
Avec des catégories précises de faits à dénoncer et pour qu'on puisse, en 2-3 clics maximum, signaler de manière opérationnelle, précise, des contenus illicites.
La plateforme, vous l'avez dit Bruno, aurait ensuite 24 heures pour supprimer ou non un contenu selon son caractère raciste, homophobe, antisémite et surtout expliquer à l'internaute comment elle a agi.
C'est pas une loi contre les plateformes. Aujourd'hui, les signalements sont déjà traités, bien sûr, hein, mais c'est vrai qu'elles n'ont pas d'objectif de résultat.
Dans le cas contraire, le texte prévoit de lourdes sanctions financières, un texte qui va dans le bon sens, selon Jérémy Magny, expert de la modération en ligne, même s'il estime qu'il faut aider les plateformes avec une instance indépendante.
Contrairement à ce qu'on peut penser, elles n'aiment pas ça, parce que ça les met dans une position d'être décisionnaires, d'être juges, elles ne veulent pas être juges. Donc je crois qu'elles-mêmes auraient préféré que ce soit à un moment donné un tiers, pourquoi pas un panel d'experts qui permettrait de ne pas faire porter la responsabilité juridique uniquement sur les plateformes. Je pense que ça n'aurait pas été une mauvaise idée.
Et la députée souhaite aussi réfléchir à un renforcement du lien avec Pharos, l'outil de signalement déjà existant du ministère de l'Intérieur. Le texte sera étudié au mois de mai.
Xavier, ces précisions et d'autres, on les trouve grâce à vous également sur franceinter.fr. Après plus de 100 jours en prison, après avoir vécu une déchéance des plus violentes du statut de grand patron à celui d'escroc, Carlos Ghosn ne fera aucun cadeau à son ancienne entreprise. Une semaine après sa libération sous caution, il voulait assister demain au conseil d'administration de Nissan en banlieue de Tokyo. Il en est toujours membre du conseil d'administration, cela avant une assemblée générale des actionnaires le 8 avril. Alors qu'a dit la justice japonaise, Dominique André ?
Le tribunal a refusé la requête de Carlos Ghosn, assigné à résidence depuis sa libération conditionnelle la semaine dernière. Selon son avocat principal, Maître Hironaka, dit le rasoir, l'un des plus grands avocats pénalistes du Japon, Carlos Ghosn souhaitait y participer. En tant qu'administrateur, il en a l'obligation, mais le droit d'y assister lui a été refusé. Le tribunal ne s'est pas étendu, mais on sait que Carlos Ghosn n'a pas le droit de rencontrer les protagonistes de l'affaire, dont les responsables de Nissan, à l'origine de l'enquête qui a provoqué sa chute. Le conseil d'administration de Nissan, qui est très attendu, est prévu demain après-midi à Yokohama, dans la banlieue de Tokyo. L'ordre du jour n'est pas connu, mais il est question de l'annonce d'un nouveau comité de direction tripartite réunissant Renault, Nissan et Mitsubishi qui pourrait siéger de façon alternative en France et au Japon. C'est une nouvelle page qui pourrait être tournée demain pour mettre fin à la crise Ghosn, mais tout ne sera pas réglé en un jour, préviennent les experts. Il faut encore attendre le procès de l'ancien grand patron de l'automobile qui n'est pas prévu avant plusieurs mois. Tokyo, Dominique André, France Inter.
Nous parlions au début de ce journal de Boeing dans la tourmente après le crash de l'avion d'Ethiopian Airlines. Eh bien, à l'instant, cette information, Boeing chute de plus de 9% à Wall Street après le crash en Éthiopie. C'est mon actu. Chaque semaine, au micro de Sandrine Houdin, un témoin nous dit quel est son rendez-vous de la semaine. Aujourd'hui, Stéphane Cognon, un homme qui a connu la schizophrénie. Il est rétabli, on ne dit pas guéri, mais rétabli. C'est un homme marié, père de 3 enfants, et qui accepte de témoigner. C'est rare, parce que samedi commencent les journées de la schizophrénie, et il voudrait changer l'image qu'ont les schizophrènes. Non, tous ne sont pas des fous, tueurs en puissance, loin de là. Il faut le dire, pour éviter l'isolement des malades, et pour qu'aux premiers symptômes, ils aillent voir un médecin. Plus les troubles sont pris en charge rapidement, plus on a de chances de se rétablir. Lui parle de ses troubles avec humour aujourd'hui.
J'entendais des voix. Comme la radio est éteinte, la télévision est éteinte, on a l'impression qu'on parle avec Dieu.
Je crois que vous faisiez aussi la météo, non?
Alors ça me durait assez longtemps. J'étais persuadé que c'était moi qui faisais le temps. C'est-à-dire que quand j'étais heureux, il faisait beau, et quand j'étais malheureux, il y avait de la pluie.
Donc c'était en fonction de vous, le temps qu'il faisait?
C'est ça, c'était moi. Et alors, tout allait bien jusqu'au moment où je sortais et j'entendais « Ah, oh, mais il fait trop chaud !» Et là, je le prenais pour moi. Il pleuvait « Ah, oh, encore ce temps pourri !» Et je prenais ça pour moi.
On est parfois, je crois, tellement déconnecté que vous êtes arrivé de ne pas prendre l'essence interdit alors que vous étiez piéton.
Exactement. Je vois un sens interdit et je ne le prends pas. Je fais un détour pour pas prendre ce sens interdit parce que je m'imaginais en voiture. On peut rire de certains symptômes après, hein, quand tout ça est terminé, mais c'est beaucoup d'angoisse. Et puis, les personnes les plus touchées, c'est la famille, c'est les proches, parce qu'ils en prennent plein la gueule, parce que on a toujours l'impression d'être dans un complot. Il y a des micros micros partout. C'est ma famille qui a mis ces micros. Mes parents ne savaient plus quoi faire.
Au fur et à mesure, ça a évolué comment ?
On veut plus sortir. On n'ose plus sortir, donc on se cloître. On sort pas de sa chambre. On mange plus. On dort plus. Puis on a peur de tout. Parce que qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que j'ai ? Je voyais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais quoi ?
Il n'y a pas des redescentes où vous vous disiez c'est pas possible ce qui m'est arrivé ?
Non.
Ou non, on est dans son délire.
Non, on est parti. Hein.
Vous avez couché votre histoire dans un petit livre. Je reviens d'un long voyage. Vous revenez de quel pays ?
Un pays lointain dont on pense qu'on ne revient pas. Enfin, on peut y revenir de ce pays. Si on intervient plus tôt, si on arrive à avoir un bon traitement, on peut se rétablir de cette maladie. C'est pas parce qu'on tombe dans la maladie à 20 ans qu'il n'y a pas d'espoir.
Et les journées de la schizophrénie, c'est du 16 au 23 mars. Le livre dont parle Sandrine est écrit par Stéphane Cognon, s'appelle « Je reviens d'un long voyage ». L'histoire semble tellement écrite d'avance que c'en est triste. Histoire des défaites successives du 15 de France de rugby. Après le 26 à 14 encaissé hier à Dublin, les Bleus ne rentrent pas en France. Ils iront directement à Rome en Italie pour le dernier match dans le tournoi Destination samedi prochain. Comme s'ils voulaient fuir la presse et les supporters. Vincent Pellegrini, vous êtes en direct de Berlin. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce qu'ils fuient les Bleus ?
Alors ce séjour à Dublin, Bruno, était prévu avant le début du tournoi. Comme il n'y a que 6 jours entre le match d'hier et le prochain en Italie samedi, l'encadrement des Bleus avait décidé de rester en Irlande pour gagner une journée de préparation. C'est vrai qu'ils en ont bien besoin, nos Bleus. Ce choix permet également au 15 de France de sortir de la routine de Marcoussi où les joueurs sont réunis depuis la mi-janvier et où l'ambiance a été à la fois morose et tendue. Et puis il y a aussi une autre raison, inavouée, mais que l'on peut logiquement avancer. Vu les mauvais résultats des Bleus depuis des mois, ce tournoi ne s'annonçait pas sous les meilleurs auspices. Un scénario catastrophe avec un enchaînement de défaites était réaliste. Avec la perspective d'un dernier match en Italie pour éviter la cuillère de bois, mieux valait alors préparer ce match de la peur loin de Paris.
Et vous avez raison, hein, en Irlande c'est bien Dublin et non pas Berlin. Alors cela dit, le match à venir c'est quand même celui de la peur. Hein. Une défaite en Italie ferait mauvais genre. Vu le niveau des Bleus, Vincent, ce n'est pas totalement exclu. Hein.
Oui, alors bien sûr, cette équipe d'Italie fait peine à voir. Samedi, elle a été surclassée en Angleterre 57 à 14, sa 21e défaite d'affilée dans le tournoi. Mais on le sait, les matchs face au 15 de France revêtent une importance particulière pour les Italiens. C'est leur finale du tournoi. Et vu le niveau actuel de ces Bleus si fragiles, on se dit que ce match à Rome samedi s'annonce très piégeux.
Italie-France, samedi prochain, 13h30. Merci Vincent Pellegrini. En athlétisme, sachez que la Fédération internationale maintient toujours la suspension de la Russie pour dopage. Cela a 6 mois des mondiaux d'athlétisme au Qatar. La météo dans un instant, mais d'abord la météo sur Mars avec Sophie Bécherel. Et oui, car à chaque nouvelle mission, on obtient de nouvelles informations. À chaque nouveau satellite, chaque nouvelle sonde, plus d'informations nouvelles et complémentaires sur Mars. Et depuis l'arrivée en novembre de la sonde américaine InSIDE à la surface de la planète rouge, eh bien la NASA fait désormais un bulletin météo quotidien, Sophie.
Avis de tempête saisonnière, température moyenne, ces dernières années, grâce aux multiples sondes envoyées en orbite ou à la surface de Mars, les données climatiques se sont accumulées. La nouveauté, c'est le bulletin météo quotidien permis par l'arrivée de la sonde InSIDE. Elle est dotée d'un thermomètre, de 2 capteurs de vent et d'un capteur de pression nécessaire pour calibrer son sismomètre. Bien sûr, InSIDE ne bouge pas, ce point météo ne concerne donc qu'un seul endroit, la grande plaine d'Elysium Planitia, près de l'équateur. Là-bas, c'est l'hiver, il fait en ce moment très froid, moins 95 degrés la nuit, moins 15 le jour. Le site est également chahuté avec des vents de 70 km par heure environ, mais soufflant parfois en rafale à 170 km par heure. Si l'objectif de la mission est d'enregistrer les tremblements de terre, les instruments de bord vont peut-être permettre d'aller au-delà et de quantifier notamment la poussière soulevée par le vent. Pas anodin quand on sait qu'au bout de quelques années, c'est elle qui vient parfois à bout des robots. En recouvrant leurs panneaux solaires, elle les empêche de se recharger.
De Mars à la Terre.
La météo, avec Préfonds, la retraite et la prévoyance de la fonction publique. Les jeunes fonctionnaires font le bon calcul sur préfonds-retraite.fr.
Moins 15 degrés sur Mars et des rafales. Et vous, que dites-vous à propos de la France, Jean-Pierre Hameau ?
Cet après-midi, prévoyez un régime de giboulées dans un grand quart nord-est du pays. Les averses seront fréquentes et localement orageuses. Des averses de neige se produiront en basse altitude des Alpes du Nord aux Vosges en passant par le massif jurassien. Et attention, le vent sera violent sur les cimes alpines. Comptez 120 à 130 km par heure. Dans les autres régions et à la faveur d'une petite poussée anticyclonique, le temps sera plus calme sous un ciel variable. L'ensoleillement sera généreux autour de la Grande Bleue. En contrepartie, le vent de nord-ouest va souffler jusqu'à 90 km par heure. Les caps corses ne seront pas épargnés. dernier avec des rafales voisines de 110 à l'heure. Les maximales seront à peu près de saison dans la moitié nord et comprises entre 8 et 12 degrés. Prévoyez 12 à 15 dans le sud-ouest et 15 à 21 dans le sud. Et puis demain, une nouvelle onde pluvieuse et venteuse est attendue dans l'ouest et le nord-ouest. Cette perturbation gagnera les régions de l'est la nuit suivante.